Ma première question est toute simple, justement. Pourquoi cette réédition de votre roman?
Oh, écoutez, ça me paraît très très simple, quoique ça a été compliqué un peu, parce que tout le monde n'était pas aussi chaud que les presses de la Cité quand ils ont décidé de me reprendre. Parce que c'est un... Déjà, pour moi, c'est un roman que j'adore absolument. Si je devais être fier d'un livre que j'ai pu écrire, c'est celui-là, quoi. C'est quand même... Oui, voilà, c'est lui. C'est lui, avec des majuscules. Et puis, j'étais très triste de voir que la première édition, il s'épuisait. Et puis que l'éditeur de l'époque n'était pas forcément un forcené de la réédition et de la suite. Donc, moi, j'étais dans une grande tristesse. C'est toujours difficile de voir mourir un livre, un roman qu'on a écrit. Celui-là, je voulais pas, quoi. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'il poursuive sa vie, le malheureux. Et donc, quand Clarisse Hénaudeau, des Presses de la Cité, m'a annoncé qu'elle prenait ce livre-là avec enthousiasme sous son coude et qu'elle le lançait de nouveau dans les airs, j'étais ravi. J'étais ravi.
Alors, on va revenir sur le contenu, bien sûr, ce que ce livre raconte, mais c'est aussi un livre particulier dans votre trajectoire, votre parcours d'écrivain. Et Jean-Christophe Ruffin, d'ailleurs, qui signe la préface, l'évoque, il fait allusion. C'est un peu le livre d'une forme de renaissance pour vous.
Il y a eu de ça aussi, en même temps. Effectivement, il a raison. Je l'en remercie, d'ailleurs. Parce qu'il a écrit quelque chose de formidable. Oui, bah, c'est un roman... Il a une histoire totalement particulière. Vu qu'il était dans ma tête, il est resté, il a grandi, il a mûri pendant quand même à peu près... Je faisais le calcul dernièrement, pas loin de 20 ans, quoi, de préparation et de mûrissement, on va dire. Et puis, en écriture même, j'y ai consacré, alors là, au moins 2 ans plein. Et quand je dis 2 ans plein, ça veut dire de l'écriture, ça veut dire tous les jours, hein, ça veut dire dimanche et jour de fête compris. Donc ça fait long, quoi, ça fait très long. Mais c'est ce qu'il fallait parce que c'était une somme quand même, ce livre. J'ai du mal d'en parler. Vous savez, quand j'ai lu pour la première fois les épreuves, quand j'ai eu fini de lire les épreuves de ce livre-là, je me suis effondré complètement dans mon bureau. J'avais l'air d'une nouille d'ailleurs, mais je me suis effondré en larmes pendant au moins 3 ou 4 minutes, et ça fait long, quoi, parce que quelque chose s'était passé, était fini, parce que des gens que je côtoyais depuis longtemps s'en allaient. Partait, me quittait, et puis donc ça représente quelque chose de... J'avais l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose aussi, un petit peu. Ça fait comme ça un petit peu cucu de le dire, mais c'était vraiment vrai. Il y a une partie de moi qui était partie avec ce livre, et puis donc il n'existait plus. Et puis un jour, il a re-existé sous forme du livre même, quoi. Et là, c'était drôle parce que j'ai vu revenir les personnages en question que je croyais qu'ils m'avaient quitté. Et ils sont toujours là, en fait. Je les ai vus revenir de nouveau et puis faire leur vie, faire leur chemin.
Et c'est ce que j'allais dire. Et surtout, vous les avez partagés à partir de ce moment-là.
Alors ça, c'est formidable, quoi. C'est absolument formidable. Parce que c'est le but aussi, j'imagine, d'un livre. Quand on écrit quelque chose, on n'attend qu'une chose, c'est ça, quoi. Bien que moi, de mon côté, n'écrivant jamais... mais vraiment jamais, en pensant à quelqu'un ni en pensant à un lecteur possible, je pense à une chose quand j'écris une histoire, c'est à l'histoire même, quoi. Mais par après, quand il se trouve que cette histoire-là trouve écho dans la tête d'autres personnes qui l'ont lue, avec qui on a, comme vous dites, partagé la chose, ça c'est voilà ce qui paye, quoi. Voilà ce qui nous voilà, c'est avec ça qu'on est payé, nous autres écrivains.
Et alors, est-ce que c'est exact, comme le dit Jean-Christophe Ruffin, que ce livre, on l'a compris, il a été en gestation pendant très très longtemps, mais que l'écriture est arrivée après un moment difficile pour vous, et cet accident cardiaque, c'est ça, la chronologie est exacte?
Oui, j'étais en cours quand même. L'incident cardiaque est arrivé en cours d'écriture aussi, donc ça ne m'a pas aidé non plus. Ça fait partie des aléas de l'existence. Donc, je m'en suis servi de cette chose-là parce que rien ne se perd. il vaut mieux ne pas perdre les choses comme ça. Oui, c'est arrivé en plein dedans, mais Oh bah de la même manière, ça c'est voilà l'existence quoi, voilà les choses. Vous savez, moi j'ai l'habitude de le dire parce que je le pense et parce que je l'ai compris au fur et à mesure. J'ai l'habitude de dire que j'existe pas vraiment, sinon à travers les bouquins que je peux écrire, à travers les histoires que je peux raconter. C'est ma vraie existence, elle est là. Le reste, c'est du travail d'ombre, quoi.
Mais alors, est-ce que c'est un mystère pour vous-même? D'où vient justement cette source permanente d'inspiration et d'histoires qui sont là, qui s'agitent, qui sommeillent en vous?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux simplement dire ce que je répète depuis longtemps parce que je crois que c'est vrai. Que les histoires, en fait, les histoires existent déjà. Elles sont. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit souvent, mais enfin, je le répète quand même. Il y a des Indiens Cris de Canada et de Nord-Amérique pensent que les histoires sont des êtres vivants qui flottent dans le ciel et qu'il suffit de les attraper pour les raconter. Et longtemps, je me suis dit que c'était joli comme pensée, mais je me suis rendu compte aussi que c'était probablement vrai. Ils ajoutent en plus, mais où vont les histoires qui ne sont pas racontées? Et je trouve ça magnifique, quoi. Et donc c'est ça. En fait, c'est ça. Voilà. Les histoires, elles existent. Et puis, de temps à autre, j'ai la chance que certaines me choisissent pour que je les raconte. Et donc, je l'avais dit aussi un peu fréquemment, ça, c'est, j'ai l'impression d'être un perchoir à histoire, quoi. Et donc, certaines, bah, se perchent en ma compagnie, et puis j'en suis ravi. Et après, il suffit, il y a une chose, la chose terrible après, c'est qu'il faut en être digne et savoir bien les raconter. Et donc, ça doit venir de là, ça doit venir comme ça. Et puis, j'ai trouvé cette solution-là et cette explication-là, et je m'en contente largement parce que je trouve qu'elle est bien, et puis ça m'évite de penser davantage au pourquoi des choses.
Alors, dans sa belle préface, Jean-Christophe Ruffin parle de l'énigme Pierre Pelot, à savoir comment est-il possible qu'un homme qui n'a jamais quitté le village dans lequel il est né, ou pratiquement pas, donc Saint-Maurice, peut-il avoir créé, imaginé, inventé autant de mondes dans ses livres et nous avoir proposé autant de voyages dans le temps et l'espace par la littérature? Quelle réponse apportez-vous, Pierre Pelot, à votre propre énigme?
Eh bien, j'aimerais bien en apporter une. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît. Je ne sais pas. Ça me paraît. C'est vrai que, bon, bien qu'ayant resté la plupart du temps les fesses dans mon fauteuil ou sur mon talus, c'est vrai que finalement, j'ai beaucoup voyagé, quoi. Je suis un grand voyageur, mine de rien. Je suis même allé sur des planètes différentes.
Oui.
Donc,
Et dans les grottes de la préhistoire.
Et là aussi, et ça, c'était un beau voyage, par contre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais que ben, je suis fait comme ça et de ça et pour ça peut-être. Mon truc, c'est ça, c'est d'exister, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est d'exister à travers. Au départ, je crois que j'ai écrit ma première histoire et que j'ai ressenti le besoin de l'écrire. C'était pour pouvoir lire une histoire que j'aurais envie de lire.
Vous aviez quel âge?
J'avais 14, 15 ans. Quand j'ai écrit la première fois un truc sur un cahier qui n'a jamais été publié, hein, rassurez-vous. Mais par après, ça a été ça, quoi. On écrit, on raconte aussi les histoires qu'on aimerait bien entendre. Je pense, hein, je dis on, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que c'est imaginer? On vit dans l'imaginaire, de toute manière, même en ne bougeant pas, mais en ne faisant rien. Le réel, on le perçoit à travers notre imaginaire et notre imagination aussi. Donc, le réel de tout le monde, hein, le quotidien de tout le monde, ça passe par l'imaginaire. Puis voilà, quoi. Et donc, moi, c'est mon truc. En fait, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là, c'en est un. C'est peut-être le seul, mais j'y tiens beaucoup.
Alors, vous avez une autre particularité. Vous êtes un écrivain polymorphe. Vous êtes frotté à quasiment tous les genres, toutes les formes. Là aussi, d'où vient cet appétit, cette envie de se frotter à tous les genres quasiment que comporte la littérature?
Alors ça, c'est très simple. C'est très simple, ça passe par le fait, et la passerelle suivante, c'est que je ne crois absolument pas au genre littéraire, en tout cas. J'ai toujours eu une sainte horreur des étiquettes et des choses comme ça, et des appellations contrôlées. dans lesquels on a voulu... Il se trouve que les premiers bouquins que j'ai publiés, moi, c'était, par hasard d'ailleurs, dans des collections dites pour la jeunesse. Et donc, écrivain pour la jeunesse, vous avez l'étiquette, elle est difficile à coller, mais elle est difficile à enlever aussi. C'est jamais que des histoires, quoi. Je ne me suis jamais dit, par exemple, tiens, je vais écrire une histoire de science-fiction, à l'époque où j'en écrivais. Non, il se trouve que tout à coup, j'avais envie d'écrire une histoire qui se trouvait être possiblement classable dans le rayon science-fiction. Voilà, mais moi, j'écrivais des westerns. Au début, mes premiers bouquins, c'était des westerns, donc ça se passait aux États-Unis, dans la grande époque du western. Donc, pourquoi? Parce que simplement, moi, j'étais lecteur de westerns, j'étais spectateur au cinéma de western, et que ça me plaisait bien, qu'à l'époque, je connaissais probablement davantage l'histoire des États-Unis et de la conquête américaine que la mienne. Donc, j'écrivais des histoires qui se passaient dans ce monde-là, que je connaissais relativement bien. Donc voilà, et il se trouve que certains écrits dits de science-fiction, moi je les ai absolument écrits comme si c'était et des westerns ou des polars ou des romans, j'allais dire normaux, mais ordinaires, quoi, des histoires. Alors les histoires, ça dépend du décor dans lequel elles se produisent, elles existent, et puis voilà, derrière ça on colle une étiquette et on en fait un genre, mais... Les gens, vous savez, c'est des habits qu'on passe ou pas, quoi. Des habits du dimanche, quelquefois, mais bon.
Qu'est-ce que, là, dans votre tanière, votre maison de Saint-Maurice, que faites-vous quand vous n'écrivez pas, là, en ce moment?
Je scie du bois, je fais des meubles.
Ah oui, pour se préparer pour l'hiver.
Ça, c'est fait. Alors, je fais des... Non, je suis en train... ça c'est la belle anecdote d'ailleurs, je suis en train de refaire la maison en question, l'intérieur.
Ah oui?
Donc je fais des meubles, je fais des portes, je fais des meubles, je suis un fanatique de la palette de bois, donc avec des palettes je fais des meubles. Pour le moment, voilà, donc, je vais refaire toute ma maison, donc ça va faire du boulot aussi ça. J'aime beaucoup le bois, c'est un truc que j'aime bien travailler le bois, la pierre aussi, mais je préfère le bois moi. Je regrette, c'est de ne pas savoir travailler le fer et la soudure et les choses-là, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très bien. Mais le bois, c'est bien. L'odeur du bois qu'on coupe, la façon dont on peut faire des choses avec une planche, tout ça, c'est quelque chose qui me plaît. Mon père était menuisier. Mon papa, quand il était encore là, il était menuisier. Et je pense que j'ai gardé peut-être quelque chose, une envie et un bonheur de travailler le bois, parce que rien que de le voir, lui, travailler ça, ça me plaisait bien déjà, tout petit. Donc, ça doit passer par là.
Mais rassurez-nous, vous trouvez encore le temps d'écrire un peu?
Alors, je suis... Oui, je travaille... Normalement, je bricole les matins. En ce moment, je vais d'ailleurs y retourner, là. Bientôt. Mais bien sûr, j'écris l'après-midi. Il y a eu un grand trou là dernièrement parce que je pensais que je ne pouvais plus écrire un mot et que j'avais surtout plus envie du tout de le faire. Et puis c'est revenu à mon corps défendant. Et c'est revenu non seulement de façon comme ça, normale, j'allais dire, mais je me retrouve avec en tête justement deux histoires qui ne demandent qu'une chose, c'est de naître et de venir. Alors il y en a une qui est presque terminée, qui va bientôt naître, mais dans les deux cas, c'est des trucs énormes, quoi. C'est des choses... C'est pas de la taille de cet ainsi, mais c'est pas loin.
Bon, ben en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre comme ça et dans cette forme étincelante d'écriture.
N'est-ce pas?
Alors que la vie, oui, vous a quand même réservé de sales coups.
Voilà. Donc, en fait, les sales coups de ce genre-là.
On parle de la mort de votre fils,
ouais,
notamment.
Ouais, oui. J'apprends des choses aussi avec ça, c'est que ça cicatrise jamais, hein, faut pas y croire. Donc je pensais vraiment, j'avais plus envie vraiment, quoi. J'avais plus envie parce que je crois que cet homme-là qui est parti un peu brutalement, on meurt un peu avec aussi, quoi. J'étais plus très vivant pendant un moment, puis finalement on doit ressusciter en partie, en tout cas un petit peu. Donc mais je pensais j'en avais marre, quoi. Je voulais plus. C'était plus la peine de... Quand on se demande chaque matin à quoi bon, c'est un peu mauvais signe. Donc, c'était plus la peine. Donc, et puis c'est revenu, quoi. Puis le pire des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est revenu, c'est pas revenu en catimini. Hein. C'est des gros machins.